Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en direct ou en podcast. C'est une époque presque révolue, celle d'une France passionnément carnivore, une époque pas si lointaine où le président Jacques Chirac pouvait engloutir dans un même repas une entrecôte de 800 grammes, des andouillettes et un pâté de tête, car c'est un fait, nous mangeons de moins en moins de viande, par éthique et par respect du bien-être animal, pour préserver sa santé, pour sauvegarder l'environnement, par dégoût des scandales sanitaires ou encore pour des raisons économiques. Expliquez-nous ce matin pourquoi vous consommez moins d'onglets, de cuisses de poulet, de jambonneau ou encore de rôti de veau. Êtes-vous devenu flexitarien, végétarien ou encore vegan? Au contraire, continuez-vous à déguster entrecôte et escalope milanaise contre vents et marées, sans culpabilité et avec plaisir. Vous pouvez dialoguer ce matin avec nos invités, la professeure Irène Margaritis de l'ANSES, la journaliste Amélie Mouget et le docteur Catherine Lacronière. Intervenez ce matin au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Dans la salade de Nolwenn, ne cherchez pas de morceaux de bœuf ou de poulet. La viande, cette jeune femme de 22 ans n'en mange que pour les grandes occasions. Elle est flexitarienne.
Quand j'ai vu en fait le nombre de litres d'eau qu'il fallait pour produire par exemple 100 grammes de bœuf ou 100 grammes de mouton par rapport à 100 grammes de maïs ou 100 grammes de blé, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire.
En effet, pour produire un kilo de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau. Les Français continuent pourtant de manger beaucoup de viande, 87 kilos par an. Et par personne.
Alors vous êtes peut-être reconnu dans ce reportage de TF1 en août dernier. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Bonjour professeur Irène Margaritis.
Bonjour Ali.
Chef de l'évaluation sur la nutrition et les risques nutritionnels à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Bonjour docteur Catherine Lacronière.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin experte en nutrition. Vous avez notamment publié chez Albin Michel l'alimentation anti-inflammatoire. Bonjour Amélie Mouget.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef de la revue A4. A4, c'est le hors-série qui réunit la revue dessinée 6 mois 21 topo. La revue A4 qui mêle BD, photographie et récit. Et votre revue titre pour son premier numéro, Viande, sa dernière heure a-t-elle sonné? Vous montrez dans ce hors-série que la viande est devenue un terrain de lutte à couteau tiré, lutte sanitaire, éthique, idéologique, politique, économique.
Alors oui, ce qui nous intéressait avec ce sujet de la viande, c'est que on peut tirer beaucoup de fils et en dire beaucoup plus que faut-il ou non manger de la viande. Les positions sont très clivées, très souvent, avec des réactions extrêmes. On a vu un boucher attaquer, des abattoirs qui font aussi l'objet de blocages. C'est devenu, et on le voit quand on en parle en repas de famille, c'est devenu un sujet extrêmement clivant. Nous, ce qui nous intéressait, c'était pas forcément de prendre position, mais c'était de créer une polyphonie, de voir en fonction de là où on est situé par rapport à la viande, si on est boucher, si on est éleveur ou éleveuse, si on est militant vegan ou sociologue, qu'est-ce qu'on a à dire de cette question de la viande? Avec, en toile de fond, cette interrogation de est-ce qu'on arrive au bout de quelque chose? Est-ce qu'on arrive au bout peut-être d'une surconsommation qui a marqué le demi-siècle qui vient de s'écouler, parce qu'on a vu que la consommation de viande avait augmenté de manière vraiment impressionnante, passant doublant quasiment sur un siècle, et c'est ça qu'on a voulu interroger. Est-ce qu'on arrive au bout de quelque chose pour des raisons environnementales, pour des raisons éthiques de bien-être animal, de conditions animales, pour des raisons de santé aussi, et puis tout ça nous a amené à nous interroger sur en fait quelque chose qui dépasse la viande, qui est l'industrialisation de l'élevage.
Alors selon une étude du Crédoc, entre 2007 et 2016, la consommation de produits carnés a chuté de 12%. La première raison invoquée, c'est souvent pour des raisons nutritionnelles. C'est justifié, docteur Catherine Lacronière?
Alors c'est en effet justifié puisqu'il y a des études que l'on doit à beaucoup d'organismes, en particulier au Centre international de recherche sur le cancer, et qui montraient en 2015 qu'il y avait une relation potentielle entre la consommation excessive de viande rouge
transformée.
Alors, potentiel pour la viande rouge et ce qu'on appelle le groupe 2A et un risque augmenté de cancer pour les viandes dites transformées.
Alors quand on parle de viande transformée, on parle de jambon, de saucisse, de plats préparés,
voilà, de charcuterie. Beef, tout à fait, même de viande dans les sauces, voire de viande séchée. Et ce sont les viandes par opposition à ce que l'on trouve sur les étals, comme le filet, le faux filet, le rump steak.
Alors je rappelle que le Centre international de recherche contre le cancer dépend de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que le lien entre cancer et consommation de viande transformée est de plus en plus robuste scientifiquement, professeur Irène Margaritis?
Alors, la relation entre le cancer et la viande transformée est robuste. Ce qui est moins robuste, c'est la relation entre la viande et le cancer. C'est la raison pour laquelle la classification pour les deux n'est pas du tout la même. Et c'est la raison pour laquelle il faut les différencier, très clairement. D'un point de vue nutritionnel, les deux présentent les mêmes bénéfices, puisque la matière première, c'est bien la viande, mais le traitement n'est pas le même dans les deux cas. Dans un cas, la viande subit des transformations, ce sont ces transformations qui peuvent avoir un effet, et c'est peut-être la raison pour laquelle les preuves sont plus robustes. Pour ce qui est de la viande rouge, donc le lien n'est pas du tout exclu, hein, puisqu'il est considéré comme étant probable, et c'est la raison pour laquelle, alors ce qu'il faut voir, c'est que le CIRC produit un rapport qui est consultatif, il donne des éléments de synthèse scientifique ensuite qui ont vocation à être utilisés pour des recommandations. Et donc c'est là qu'on traduit en recommandations, c'est ce qu'on a fait nous pour l'élaboration des recommandations du fonds scientifique des repères du PNNS, et on a considéré ces éléments apportés par le CIRC, d'une part pour les viandes transformées, puisqu'on a calé au maximum à 25 grammes par jour la consommation de viande transformée, et on a utilisé le seuil maximal, le plafond proposé par le CIRC à 500 grammes par semaine pour la viande rouge.
Rappelez-nous ce qu'est le PNNS.
Le Programme National Nutrition Santé, dont on élabore le fonds scientifique pour ce qui est des repères alimentaires.
Docteur Catherine Lacrenière, on sait pourquoi la consommation excessive de viande transformée accroît le risque de cancer. C'est lié aux composés, aux additifs chimiques injectés dans ces viandes transformées?
Alors c'est lié à plusieurs choses. D'abord à la présence de fer, dit fer héminique, que l'on trouve et dans la viande et dans la viande transformée, et ce fer est pro-oxydant et il va provoquer des modifications, d'abord des mutations au niveau de cellules saines qui vont devenir précancéreuses, et puis ça va faciliter également le passage de cellules déjà précancéreuses au stade cancéreux. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi dans la transformation l'apparition de molécules qui sont également cancérigènes, les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les je suis désolée, ça fait beaucoup de lettres. Mais toutes ces molécules, ainsi que la transformation de nitrite en composé N-nitrosé, vont être des molécules qui vont favoriser l'apparition des cancers, en particulier au niveau colorectal.
Alors rappelons tout de même que les cancers sont des maladies complexes qui résultent de l'interaction entre un grand nombre de facteurs et que le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, n'a jamais recommandé de ne plus manger de viande ou de charcuterie. Quelle est la composition de la viande, docteur Catherine Lacrenière?
Eh bien la viande, c'est une excellente source, il ne faut pas l'oublier, de protéines de haute qualité biologique, à peu près 20% de protéines. Et vous savez qu'on ne sait pas les fabriquer, ces protéines. On a besoin d'acides aminés, les pierres apportées par l'alimentation qui vont nous permettre de fabriquer ces protéines. Il y a des graisses, là c'est variable en fonction du type de viande que l'on choisit, entre 3 et 23%. Il y a des vitamines, vitamine B en particulier, de la B1, de la B6 et surtout de la B12. Il y a du zinc, il y a du sélénium et puis il y a ce fameux fer. Et c'est là, c'est étonnant puisque le fer d'un côté, on l'accuse de favoriser l'oxydation qui va favoriser le terrain cancéreux. Mais de l'autre côté, il est important ce fer pour les personnes qui en manquent. Et on rappelle que les femmes jeunes sont souvent carencées, surtout quand il y a des grossesses multiples.
Vous avez dit surtout la B12.
Oui,
pourquoi surtout la B12?
Mais parce qu'en fait, la B12, elle accompagne tous les produits qui contiennent des protéines d'origine animale. Et la personne qui est végétarienne, même végane, surtout les véganes, n'ont pas de vitamine B12. Et à ce moment-là, ça peut poser des soucis, ça va favoriser favoriser des anémies, des baisses de globules rouges en particulier.
Et bien souvent, elles se supplémentent. Hein,
tout à
ces
fait.
Personnes véganes. Professeur Irène Margaritis.
Oui, la question. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que rien n'est binaire. C'est-à-dire que on va pas dire la viande c'est bon, la viande c'est mauvais, c'est mal, c'est bien. Il faut vraiment considérer qu'en nutrition, il y a un optimum. Et que cet optimum peut être en dessous d'un niveau de risque et à partir d'un niveau pour lequel on peut avoir des bénéfices. Donc ces bénéfices qui viennent de la viande avec le fer héminique, on peut aussi les trouver, on ne les trouve pas uniquement dans la viande, on les trouve aussi dans d'autres produits d'origine animale mais aussi d'origine végétale même s'il n'est pas héminique. Donc après il y a toute la question de la substitution et de l'équilibre alimentaire global.
Alors la revue à quatre titres, viande, sa dernière heure a-t-elle sonné? Et pourtant pendant longtemps la viande fut réputée excellente pour la santé, Catherine Lacrenière. Nous avons tous connu la viande au moins une fois par jour, 7 jours sur 7.
Voire deux fois par jour. Pour certains, oui. En effet, on disait que de manger de la viande, ça permettait de rester en bonne santé. Il y a même des régions de France où on donnait de la viande au petit déjeuner. Donc les choses, en effet, ont évolué pour toutes les raisons dont on a parlé. Mais comme on le disait très bien, il n'y a pas en nutrition de bons et de mauvais aliments. Tout est question d'équilibre.
Amélie Mouget.
Oui, sur cette question de notre propension à manger de la viande et la valeur qu'on lui donne nutritive ou même symbolique, en fait, tout ça est construit, c'est ce qu'on a appris en réalisant cette revue et en réalisant des entretiens, notamment le fait que si on mange de la viande tous les jours, c'est parce qu'on nous y a incité. Autant de Maupassant ont mangé de la viande grand maximum une fois par semaine, et puis au 19e siècle, on s'est rendu compte que les population ouvrière était un peu chétive et qu'il fallait du muscle pour faire tourner les usines et des campagnes, alors c'est ce qu'un sociologue Arno Fraunfelder appelle la domestication des mœurs, des campagnes ont eu lieu pour inciter les ouvriers à manger de la viande tous les jours. Donc ce qu'on imagine comme naturel aujourd'hui, c'est le fruit de messages diffusés par les pouvoirs publics, messages qui aujourd'hui vont plutôt dans une autre direction.
Manger de la viande pour être fort comme un bœuf.
C'est...
Catherine Lacrenière.
Oui, c'est tout à fait ça. L'image parle d'elle-même, en effet. Et ça a été d'ailleurs un changement, puisque les gens, aujourd'hui, vous demandez à des cinquantenaires, des soixantenaires, la viande faisait partie des assiettes, midi, souvent midi et soir.
Professeur Margaritis.
Bon, la viande présente aussi une facilité. C'est peut-être la raison pour laquelle les pouvoirs publics, à l'époque, avaient encouragé la consommation de viande. C'est que les fameux acides aminés dont on parle, l'avantage, entre guillemets, de la viande et d'autres produits d'origine animale, d'ailleurs, c'est qu'on trouve tous les acides aminés, notamment tous les acides aminés essentiels, dans un seul vecteur, dans un seul aliment. Donc c'est assez facile. C'est-à-dire que le travail qu'on aura à faire en équilibrant, en faisant des manipulations nutritionnelles pour arriver à récupérer ces acides aminés essentiels dans les légumineuses et dans les céréales, c'est un peu plus compliqué que de se dire, bon, bah, je mange de la viande, j'ai un peu de fer dedans, c'est riche, hein, c'est-à-dire c'est un aliment qui apporte beaucoup de nutriments et d'une certaine façon, c'est facile. Donc c'est la raison pour laquelle très probablement à l'époque, les pouvoirs publics avaient incité la population à consommer.
Et c'est pourquoi cette tendance vers le véganisme ou tout simplement la diminution de viande nécessite que les consommateurs s'informent sur l'endroit, là où ils peuvent trouver du fer, où ils peuvent trouver des protéines de haute qualité biologique, parce que diminuer un aliment, eh bien, ça a des conséquences.
Allez, dites-nous pourquoi vous mangez moins de viande, ou au contraire, vous continuez à en consommer avec appétit et plaisir au 01 45 24 7000. Claire Destacan, Clara Marliot et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et on écoute Catherine Stone avec toi.
J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime
nu.
Ce type est fou, mais génial. Philippe Catherine, Stone avec toi.
Mesdames et messieurs, la côte de bœuf.
Ah, ah,
oh, oh, grand bien en face.
Alors j'en veux bien une tranche bien sédimentée, s'il vous plaît.
Allez. Sur France Inter.
10h22, mangez-vous encore de la viande. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
Dites-en, garçon, est-ce que le chou farci est à température?
Voilà, monsieur.
Très bien.
Vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes?
Oui.
Mais non.
Hey, me donnerai la crème fraîche avec mon chou farci.
Bien entendu, monsieur.
Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça.
Si.
Mais à votre âge, ça peut être dangereux.
Mais j'ai toujours vécu dangereusement.
Moi, des chou farcis, je ne ferai même pas une bouchée, moi.
Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. T'as donnez-nous deux calvas.
Ouh là là.
On va faire le trou normand. Le calva dissout les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, monsieur.
Oui. Mais que, comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Hein? Hein?
Oh, donnez-moi du chou farci.
Ah, vous voyez?
Ah oui.
La France de Jacques Chirac et de Jean Gabin dans le Tatoué, adepte de la viande à matin, midi et soir, une France révolue en tout cas pour l'instant. Docteur Catherine Lacronière, de nombreuses recherches montrent le rôle de l'inflammation chronique dans de nombreuses pathologies. Je pense au diabète de type 2, aux maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, aux maladies cardiovasculaires. Est-ce que la viande est un facteur d'inflammation chronique, en tout cas quand on en mange trop?
Alors, en effet, l'excès de consommation de viande rouge est un facteur d'inflammation chronique. On parle là d'une inflammation invisible, silencieuse, qui se trouve au niveau de la cellule, donc on la voit au niveau du microscope, mais elle est présente dans tous les organes. Ainsi, au niveau de ce qu'on appelle la plaque d'athérome, eh bien, ça va favoriser les maladies cardiovasculaires. C'est également présent dans les cellules, du cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer.
C'est quoi l'inflammation chronique exactement?
Alors c'est toute une... Au départ, l'inflammation c'est un mécanisme vital qui permet de se sauvegarder. On
ne
serait
défendre.
Plus là, tout à fait. Vous avez une agression, vous rentrez une écharde, vous avez une réaction du cœur qui est une qui est une inflammation, vous débarrassez de l'écharde et tout revient à la normale. Mais pour certains cas, cette inflammation elle va perdurer parce que les agresseurs sont toujours là ou même ils ne sont plus là et pourtant l'inflammation perdure. C'est grâce à ces agresseurs, ils peuvent être alimentaire, c'est l'alimentation inflammatoire. Ils peuvent être également d'autres ordres, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Il faut savoir aussi qu'un sommeil altéré ou la sédentarité favorise l'inflammation.
Alors pourquoi la viande peut entraîner à forte dose une inflammation chronique?
Eh bien parce qu'en fait, elle va déclencher plus cette fameuse cascade inflammatoire. Il y a une intrication entre deux mécanismes, ce qu'on appelle le stress oxydatif, l'oxydation. Et on a parlé tout à l'heure du fer qui va oxyder les lipides, c'est-à-dire les graisses, en particulier les oméga 6, permettent la formation de molécules qu'on appelle les aldéhydes, et ces aldéhydes vont favoriser justement le changement des cellules normales en cellules précancéreuses puis cancéreuses. Donc, la consommation en excès de viande rouge et encore plus de viande transformée va favoriser l'inflammation, même si ce sont quand même deux mécanismes différents mais fortement intriqués.
Professeur Irène Margaritis.
Enfin, la question de l'inflammation, c'est la vie est inflammatoire. Hein. C'est, bon. mais effectivement, certains comportements alimentaires et certains aliments vont être plus pro-inflammatoires. La viande, mais aussi d'autres aliments. Donc, je pense qu'il faut pas centrer le problème sur la viande. D'autant qu'il faut quand même considérer les bénéfices. C'est-à-dire que, à un moment donné, on revient à cette question d'équilibre global. Ces réactions avec le ferréminique vont se produire quand il y a un excès, non pas quand il y a un apport raisonnable. Le ferréminique, on va le trouver dans la viande, mais on peut aussi en trouver dans le poisson, hein, qui a d'autres effets bénéfiques. Je tiens à apporter une précision. Quand on parle de viande ici, on parle de viande rouge, c'est-à-dire on parle de viande hors volaille. Ça vaut aussi pour nos recommandations, les repères qu'on a diffusés. Il s'agit de viande rouge, c'est-à-dire ça peut être de la viande de bœuf, ça peut être aussi de la viande de cheval, de porc, etc. Mais on s'exprime hors volaille. Mais par contre, l'intérêt de la volaille est différent puisqu'on ne va pas retrouver le fer qui est intéressant dans la viande. Donc là, on entre dans une complexité qui relève de la diététique.
Alors Gilles se nous dit par courriel, je suis devenue végétarienne suite à la maltraitance animale. Certains se détournent de la consommation de viande car ils ne supportent plus les conditions d'élevage, d'abattage et de transformation. Deux témoignages glaçants dans la revue A4, celui d'un employé, d'un ancien cadre de l'agroalimentaire Christophe Brusset et d'un employé d'un abattoir, Pierre Inard. Amélie Mouget.
Oui, alors ces témoignages en fait disent un peu la même chose. Ils disent que quand on travaille dans ce secteur-là, le but ce n'est pas la santé du mangeur, du consommateur, c'est de faire de l'argent. Et à la limite, coûte que coûte, on a des pratiques qui sont complètement hallucinantes de ce qu'on appelle la remballe, c'est-à-dire récupérer de la viande
avariée.
Alors, dans un premier temps, c'est possible de récupérer de la viande, de couper des morceaux et de la remballer pour la servir, la remettre dans les circuits de distribution. Ce que nous indiquent les témoins qu'on a fait parler dans cette revue, c'est qu'il y a des abus très fort avec plusieurs semaines qui s'écoulent.
Mais c'est une vieille pratique.
Oui, c'est une vieille pratique. Alors, ce qui, à chaque fois, nous on se demande, est-ce que c'est un cas particulier ? Est-ce que c'est un dysfonctionnement local ? Ou est-ce que c'est systémique ? Et en fait, quand on s'intéresse à cette question de l'industrialisation, on se rend compte que élever autant d'animaux sur des surfaces aussi petites, on parle d'élevage à 200 000 poulets, on parle de plusieurs milliers de porcs, puis des circuits où on doit abattre, où l'animal se déplace sur la chaîne de montage toutes les minutes. En fait, on se rend compte que cette industrialisation, ces quantités de viande énormes que nous consommons, génèrent derrière un système monstrueux qui provoque ces dérives, ces pratiques que peuvent être la remballe, ou alors on avait un trader alimentaire qui explique que lui, si le produit est de mauvaise qualité, qu'importe, parce que c'est la marge qu'il peut faire dessus qui est importante.
C'est ce que vous dit Christophe Brusset dans la revue. Reportage sous forme de bande dessinée dans un élevage intensif de poulets en batterie, 200 000 gallinacés entassés dans des cages, et un militant de l'association L214 s'est infiltré dans cette usine à poulets.
Oui, alors le travail de L214, c'est de visibiliser l'envers de nos barquettes de steak, de montrer qu'est-ce qu'il se passe derrière, à la fois pour les hommes, parce que travailler dans ces conditions, c'est compliqué, pour les animaux, parce que là, on parle d'animaux qui sont privés de leur attribut défensif, qui meurent de poules, qui meurent les unes sur les autres, qui se picorent mutuellement, enfin, on est dans des conditions indignes, et les méthodes de L214, c'est de s'introduire, et c'est ce qu'on voit dans cette bande dessinée, de manière complètement à visage couvert, enfin, en tout cas en se faisant passer pour
des
salariés.
On a tous vu les vidéos de L214.
Et ça a un impact incroyable.
Et quel est l'impact justement des actions de L214 sur les industriels de la viande ?
J'ai l'impression, alors on a titré un des articles « Ils font trembler l'industrie de la viande » et j'ai l'impression que c'est le cas, dans le sens où là, il y a eu récemment une campagne menée contre l'élevage industriel au lendemain du départ de cette campagne sur les réseaux sociaux, Intermarché faisait machine arrière et promettait et prenait des engagements. Donc j'ai l'impression que la méthode fonctionne.
Bonjour Célia, bienvenue.
Oui, bonjour Ali.
Alors vous êtes devenue d'abord végétarienne, puis végane, c'est ça ? Quel a été le processus, Célia ?
Alors oui, c'est bien ça. En fait, je suis devenue végétarienne il y a 6 ans, à peu près maintenant. Et en fait, je suis restée pendant 3 mois végétarienne. Et je me suis rendue compte, en fait, en m'informant que c'était pas suffisant d'être végétarienne. Dans le sens où, en fait, en consommant des produits laitiers, je continuais à servir l'industrie de la viande. Mmh. Donc, je suis devenue végane. Et j'ai tout de suite vu, en fait, les bienfaits sur ma digestion physique. Donc, ça a été beaucoup, enfin, au-delà de la maltraitance animale et de plus participer à cela, je me suis sentie tout de suite mieux, en fait.
Professeur Irène Margariti, sur le témoignage de Célia.
Oui, je vous écoute avec attention. J'ai simplement une question à vous poser. Est-ce que vous vous supplémentez, par exemple, en vitamine B12, comme on l'a évoqué tout à l'heure?
Oui, tout à fait. Bah, du coup, je prends un complément en B12, oui.
Donc la question, bien sûr, on peut très bien avoir une alimentation végétalienne à partir du moment où on prend certaines précautions. Et je pense que maintenant, vous savez le faire, vous, de votre côté, puisque ça fait un petit moment que vous avez cette alimentation. Il faut rééquilibrer l'ensemble de l'alimentation, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure une partie de notre alimentation sans rééquilibrer l'ensemble. C'est un château de cartes. Quand on enlève, il faut rééquilibrer l'alimentation par ailleurs.
Catherine Lacronière.
Oui, et ce qu'on voit en consultation, c'est qu'il y a plus en plus d'adolescents, voire même d'enfants, qui, en ayant vu ces reportages à la télévision, décident de ne plus manger de viande, viande rouge. Et c'est vrai que les parents sont parfois démunis parce que, forcément, la croissance a besoin, quand on grandit, on a besoin de tous ces nutriments. Donc, c'est compliqué, hein, quand on est un enfant, un adolescent, d'arrêter la viande rouge. Et il faut bien se renseigner.
Alors, arrêter la viande, c'est une chose, et ensuite, au-delà de devenir végétalien, c'est-à-dire exclure tous les aliments d'origine animale, c'est le cap suivant. Donc, supprimer la viande rouge, ça peut être faisable, simplement chez les enfants et effectivement chez les adolescents, c'est-à-dire la population en période de croissance, c'est pas forcément la meilleure idée parce que c'est assez difficile de rééquilibrer de façon précise, rigoureuse, l'alimentation sans prendre de risques. Donc, il vaut mieux éviter ce type d'alimentation dans les périodes de croissance. Faire très attention chez les femmes qui sont végétaliennes et qui sont les femmes en âge de procréer, donc qui peuvent attendre un enfant et qui allaitent, faire attention à ce type d'alimentation puisque c'est une alimentation qui appauvrit l'alimentation de l'enfant pendant la vie fœtale et qui appauvrit aussi d'un point de vue nutritionnel avec des risques extrêmes qui vont malheureusement jusqu'à la mort.
Célia, restez avec nous. Nous accueillons Franck. Bienvenue Franck.
Oui, bonjour.
Fidèle auditeur, éleveur dans le Lot, comment vivez-vous cette désaffection pour la viande ?
Eh bien, moi, enfin, à titre personnel, je le vis moyennement bien et je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Tous les éleveurs, c'est un peu dans mon cas, on a un peu l'impression qu'on nous tape fréquemment dessus pour dire l'élevage, c'est pas bien, tout ça. Alors qu'en fait, en France, on a un mode d'élevage de vaches à viande assez respectueux de la nature. Elles sont à l'herbe, enfin elles sont dans les prés du printemps jusqu'à l'automne, et l'hiver elles sont nourries avec les fourrages que nous produisons. Et donc moi j'essaie d'inviter, quand des gens me questionnent, je leur montre ma ferme, je les fais visiter, enfin je prends plaisir à leur montrer que c'est pas des animaux esclaves que nous avons, qu'au contraire on prend fortement en compte leur bien-être et on est plutôt attentif à leurs besoins, et dès qu'ils sont malades, on essaye de les soigner, bien entendu, quoi.
Célia, vous êtes restée avec nous?
Oui, oui.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Franck, qui est éleveur dans le Lot?
Moi, je respecte tout à fait le travail des éleveurs, c'est juste qu'en fait, je parle pas ce que vous voulez. Je pense que dans tous les cas, tuer un animal, ça peut pas être fait avec douceur et bienveillance. Enfin, dans tous les cas, c'est comme tuer un humain. Je veux dire, c'est pas en mettant de la musique ou en le caressant ou quoi que ce soit que ça va amoindrir les effets et montrer que c'est quelque chose de bien, quoi.
Irène Margaritis.
Moi, je voudrais simplement juste recentrer quelques secondes le propos sur la question nutritionnelle. Il faut quand même savoir qu'en fonction des méthodes d'élevage, la qualité nutritionnelle elle-même de la viande qui est consommée est tout à fait différente. Donc le fait d'avoir un élevage en plein air avec des animaux dans les pâturages donne une viande qui, d'un point de vue de sa qualité nutritionnelle, est complètement différente de l'élevage intensif.
Franck, dialogue impossible avec les véganes ?
Je ne sais pas si le dialogue est impossible. Enfin, moi, j'essaie de dialoguer avec tout le monde, mais J'ai l'exemple d'un cousin qui est prof de philo à Paris, qui est originaire d'ici, qui maintenant est devenu végétarien. En fait, quand il vient chez moi, il fait exception, il mange de la viande, et il me dit qu'à Paris, il a du mal à trouver de la bonne viande, etc. Alors je lui dis, c'est faux, tu toute la viande de label rouge, il y a quand même un cahier des charges important, il y a une traçabilité. Les éleveurs qui sont engagés dans les filières label rouge, que ce soit en veau élevé sous la mer ou en vache limousine, blason prestige, c'est plutôt des animaux qui sont élevés, comme dit votre intervenante, en fonction d'un cahier des charges. Donc il y a une alimentation non OGM. Donc les fourrages, 80% des fourrages doivent être issus de notre exploitation, ce qui est le cas, hein. Souvent on est à 95%, à part des années comme cette année, des années de sécheresse. Mais sinon, faut faire confiance aux éleveurs et je pense au label, quoi, parce que c'est quand même un gage de qualité.
Franck, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Monique, hein, qui nous envoie un message, qui nous dit « Ce sont d'abord les scènes abominables d'abattage d'animaux, les conditions d'élevage qui m'ont dégoûté de la viande ». Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il y a beaucoup d'auditeurs qui vont dans ce sens.
Eh bien, moi, quand je vends mes animaux, ils sont abattus dans un rayon maximum de 40 km de mon exploitation. Il y a l'abattoir de Brive en Corrèze ou l'abattoir de Saint-Céré. Et donc, je n'assiste pas à la tuerie, mais j'assiste à l'accompagnement des animaux. Ils sont d'abord étourdis et ensuite égorgés. Et le fait qu'ils soient assommés, entre guillemets, de suite, l'animal tombe. Enfin, il ne se rend pas compte de son état, quoi. C'est assez immédiat, quoi.
Merci beaucoup, hein, Célia et Franck, d'être intervenus ce matin. Amélie Mouget.
Alors, ce qui est intéressant sur cette question de la relation à l'animal que soulève notre consommation de viande, c'est que on a rencontré, nous, pour faire cette revue à quatre, des éleveurs qui se posent les mêmes questions par rapport à l'abattage et qui essayent de trouver des solutions. On a Émilie Janin qui nous racontait: moi, emmener mes bêtes à l'abattoir, c'était les trahir. Et donc, elle est partie en Suède, elle s'est renseignée sur les abattoirs mobiles. Et donc, ce cheminement sociétal qu'on mène tous, de se dire, c'est indigne les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être abattus, les élevages industriels, c'est au-delà de l'entendement. Des éleveurs se posent aussi ces questions-là.
Et puis certains ne veulent plus manger de viande pour préserver l'environnement. Il faut, je crois, environ 13 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de bœuf, c'est ça ?
Oui, contre 50 litres pour des lentilles.
Pour un kilo de lentilles.
Voilà, pour des apports en protéines, qui ne sont pas les mêmes protéines. Mais on a un impact sur l'environnement qui est complètement... qui est très très fort quand on parle de la viande, en émission de gaz à effet de serre également. C'est le premier levier pour agir sur l'environnement, c'est dans l'assiette.
Docteur Catherine Lacronière.
Oui, on en revient à la variété dans l'alimentation. On parlait des lentilles. Les lentilles, c'est aussi une très bonne source de fer, même s'il ne s'agit pas de la même sorte de fer que dans la viande rouge. Il faut donc manger tout. Ce monsieur qui est végétarien à Paris et qui mange de la viande quand il va voir son cousin, eh bien, il est flexitarien. Voilà, gardons une alimentation ouverte, surtout, y compris sur de la viande.
Et puis, un auditeur nous dit, au prix de la viande, ce n'est pas toujours par volonté que l'on devient végétarien. Une dernière question très pratique, est-ce que manger un œuf, ça permet de se supplémenter en vitamine B12, Catherine Lacronière, Irène Margaritis?
L'œuf est très souvent oublié. Et l'œuf est très riche en nutriments, pas seulement en B12, mais aussi en acides aminés. Les acides aminés du blanc d'œuf composent une protéine de très très haute qualité. Donc c'est vraiment un aliment qu'il ne faut pas oublier.
Allez, nous consacrerons d'autres émissions à la viande, bien évidemment, cette saison. Merci d'être venu, professeur Irène Margaritis, docteur Catherine Lacronière et Amélie Mouget de la revue A4, passionnante, avec à la une, viande, sa dernière heure. A-t-elle sonné ? Demain, nous recevons le Canadien Karl Honoré, le célèbre auteur d'Éloge de la lenteur, pose des questions passionnantes sur l'allongement de la vie. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Dans un instant, l'édition spéciale de France Inter consacrée aux obsèques nationales du président Jacques Chirac.